Et donc, on y va avec les concepts de base. Il y a différentes sections dans ce beau document qui est de plus en plus bariolé. On a vu certaines notions de base. On a vu une cartographie, entre autres, comment s'articule la protection pour un risque donné. Est-ce que c'est l'État qui intervient? Est-ce que c'est un employeur, comme avec l'entreprise ABC? Est-ce que c'est l'individu? On a vu ça ensemble. Là, on en était plus au point 3 sur les différents mécanismes de sécurité sociale. Ce qu'on a vu là-dedans avant de se quitter lundi, c'est qu'on peut voir 4 grands types de régimes. Des régimes universels, donc qui couvrent tout le monde. On a vu ça. 2 exemples. L'assurance santé. On a tous une carte d'assurance maladie. En passant, on va en avoir une nouvelle. Qui nous permet d'avoir accès à des soins sans frais ou à des frais très limités. Évidemment qu'en termes de prévoyance, il y a la question de l'assurance et de l'épargne. Donc, on a commencé à voir, on s'est dit, oups, il y a certains régimes qu'on peut associer à des régimes d'assurance où on prévoit ce qu'on appelle des prestations déterminées. Puis ça, il y en a beaucoup. On va en voir, ça va nous occuper vraiment beaucoup. Mais aussi, en termes de prévoyance, on peut avoir des régimes qui sont simplement de l'épargne. Donc, on met de l'argent de côté, puis évidemment, ça peut nous aider dans certaines situations. Mais par opposition à l'assurance, il n'y a pas de transfert de risque. Donc, ce que j'ai comme patrimoine pour me couvrir, c'est simplement ce que j'ai épargné. C'est là où on en était, puis c'est là qu'on va reprendre ce matin, puis ensuite, on va enchaîner avec les autres volets. Donc, les fonds de prévoyance... Ce qu'on appelle les fonds de prévoyance, qu'on peut appeler aussi des régimes à cotisation déterminée, c'est simplement ce qu'on pourrait appeler un régime d'épargne forcée. Donc, tu mets en place un régime, puis tu dis aux gens, vous êtes tenus de verser, par exemple, un pourcentage de votre salaire, par exemple, 5% de votre salaire, puis ça s'accumule dans un compte individuel. Donc, c'est carrément un compte d'épargne. Ce qui est intéressant de voir par rapport à ça, si on va au-delà de l'épargne traditionnelle, puis je dirais de l'épargne standard, bien, c'est que des fonds comme ça, ça peut être utilisé, par exemple, pour la retraite, parce que la retraite, c'est un risque prévisible, OK? Ça arrive en fin de vie. Donc, après avoir travaillé pendant plusieurs années, on va vouloir toucher un revenu sans devoir travailler, là. Puis, comme ça, nécessairement, ça arrive en fin de vie, c'est prévisible. Ça ne signifie pas que de l'épargne forcée, un régime obligatoire d'épargne, un régime ce qu'on appelle à cotisation déterminée, OK, ça couvre vraiment bien le risque lié à la retraite parce que je vais avoir accumulé un fonds, je vais devoir retirer des sommes de ce fonds-là. Puis évidemment que si je décède prématurément pendant qu'il va rester beaucoup d'argent dans le fonds, mais si je vis très vieux, peut-être que je vais manquer d'argent dans le fonds. Donc, ce n'est pas idéal en termes d'assurance ou de sécurité financière. Mais pour la retraite, ça peut quand même faire la job relativement bien. On pourrait avoir de l'épargne forcée, de l'épargne obligatoire pour d'autres risques. Par exemple, pour la santé. Pour la santé. Ou même le chômage. Mais là, évidemment que tout dépendant de la nature des problèmes de santé que j'ai ou du moment où survient le chômage, je peux être plus ou moins bien couvert. Pourquoi plus ou moins bien couvert? Parce que, évidemment, c'est un élément marquant de ces régimes-là, c'est qu'il n'y a aucun transfert de risque. Ça va? Donc, je vis avec ce que j'ai accumulé. Puis, si j'ai des sérieux problèmes de santé, bien, je vais être mal foutu. Si au contraire, j'ai une très bonne santé, bien, j'aurais mis trop d'argent de côté. Donc, évidemment, qu'il n'y a pas de transfert de risque. Les avantages de ces régimes-là, bien, évidemment, c'est que d'abord, c'est très simple, puis ça peut développer le goût pour l'épargne. Par contre, comme je l'ai mentionné, aucun transfert de risque, puis ne garantit aucun minimum vital, parce que justement, bien, dépendant des besoins que j'ai, ou dépendant simplement du timing dans le temps, à quel moment ça survient, ça peut répondre ou non à mes besoins. Concrètement, est-ce qu'on a au Québec, au Canada, des fonds de prévoyance, des régimes à cotisation déterminée? Dans le domaine public, la réponse, c'est non. dans le domaine privé collectif, on a des régimes de retraite à cotisation déterminée. Dans les entreprises. Puis en fait, on verra ça, c'est en train de devenir le régime un peu typique, les régimes les plus populaires là, pour différentes raisons. Les employeurs se limitent, par opposition à ce qu'ils faisaient dans le passé, là, se limitent à offrir des régimes de retraite à cotisation déterminée, donc où il n'y a pas de transfert de risque, puis par ricochet, où l'employeur n'assume pas de risque. Tout ce qu'il fait, c'est verser une cotisation. Puis il dit à l'employé, j'espère que tu vas avoir des bons rendements, puis ça va être suffisant, mais c'est là que s'arrête ma responsabilité. Ça va-tu pour ça? Autre type de régime, les régimes de revenus garantis. Puis c'est un domaine, je ne sais pas si je l'ai ici, oui, c'est un domaine de lien là, que vous avez. C'est l'Ontario, donc la province voisine, a mis en place un projet pilote pour un revenu minimum garanti pour les personnes à faible revenu. C'est quoi un régime de revenu garanti? C'est un régime où on va vous garantir un revenu de base. Donc, revenu de base à tous. Puis ce revenu-là, il est réduit des autres revenus qu'on peut toucher. OK? Au Canada, il y a un régime de revenus garantis qui est en vigueur depuis de nombreuses années, puis on va s'en parler. Ça s'appelle le SRG, ou le supplément de revenus garantis. Ce qui est particulier, c'est que c'est pour les personnes de 65 ans et plus. Ça va? Donc, c'est ça qui existe au Canada actuellement, comme régime de revenu garanti, sauf que c'est des questions qui sont débattues beaucoup pour différentes raisons. Donc, actuellement, il y a un projet pilote dans certaines villes en Ontario, puis auprès des populations plus à risque, populations autochtones, entre autres, là, pour voir si on ne devrait pas prévoir un régime de revenu garanti. Dans les éléments qui sont importants de savoir par rapport à ça, bien, première des choses, comme je viens de vous dire, c'est que les prestations, le niveau des... Voyons, je... Le niveau des prestations, il est... Quand je vais faire mon smart avec la techno, ça ne marche pas tout le temps. Le niveau des prestations est inversement relié au niveau de revenus. On fait une distinction entre revenus et besoins. Et une distinction entre revenus et actifs. Ça veut dire quoi, ça, par exemple? Revenu et besoin. J'ai un handicap, OK? Le handicap fait en sorte que pas capable de travailler. Bien, un régime de revenu garanti, ça ne vient pas dire, vu que tu n'es pas capable de travailler, on va te donner un montant plus élevé. Évidemment qu'il y a une corrélation, là, si tu te relies ces affaires-là. Si je ne suis pas capable de travailler, je vais avoir des revenus plus faibles, donc je vais avoir une prestation plus élevée. Mais on ne tiendra pas compte expressément de mes besoins comme personne handicapée, besoins particuliers. Par exemple, besoin de fauteuil roulant, de maison adaptée, véhicule adapté aussi, bien, le régime de revenu garanti, il dit non, moi, je me préoccupe pas de ça. Le seul élément que je prends en considération, c'est que si tu n'es pas capable de travailler, tu auras un niveau de revenu plus faible. De ce fait-là, tu auras une prestation. Son ancien compte. De la même façon, bien, j'ai un accident, je deviens handicapé, j'ai un handicap, je ne suis plus capable de travailler. J'avais déjà une maison. OK, j'avais une super grosse maison. Wow, fantastique. Ma résidence, maison. Bien, on ne dira pas, vu que tu as une maison qui vaut très cher, on ne te paye pas de prestations, parce que juste à vendre, ça va te faire des revenus. On ignore ça complètement, peu importe où tu restes. Les prestations qu'on va te payer sont strictement en fonction de ton niveau de revenu. Ça va? Évidemment, quand on parle de ces régimes-là qui ont une forte connotation sociale, là, c'est des régimes qui sont financés à même, voyons, à même les revenus généraux des gouvernements. OK? Les avantages de ces régimes-là, bien, un premier, évidemment, c'est que c'est efficace pour combattre la pauvreté. Puis, ça demeure relativement un critère objectif et simple. Parce que, de façon générale, combattre la pauvreté, c'est pas nécessairement simple. OK? Puis, si on tient compte de tous les facteurs qui peuvent mener à une situation de pauvreté, là, c'est pas nécessairement évident. Mais ici, on garde la chose simple, on dit juste... Puis, concrètement, là, vous le savez, pour faire une déclaration de revenus, vous avez travaillé... Vous faites des déclarations de revenus. On va te payer une prestation en fonction des revenus que tu as déclarés l'an passé, par exemple. Donc, tu as un revenu faible, on te paye une prestation. Ça va? Les désavantages de ça ou les problèmes qui sont associés à ça, un qui est important quand on parle de ce genre de régime-là, c'est la question de l'autonomie financière. OK? Puis, ce n'est pas un hasard si au Canada, on a mis en place un régime de revenus garantis pour les 65 ans et plus, versus les personnes en âge de travailler. Les personnes en âge de travailler, puis si on oublie le projet pilote pour une minute, actuellement, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on a toujours eu la hantise que si on mettait en place un régime de revenus garantis pour des personnes qui sont en âge de travailler, ça va créer une désincitation à travailler. Les gens vont être moins portés à aller travailler parce qu'ils disent ben, « de toute façon, j'ai un revenu de base qui est garanti. Puis en plus, si je travaille, on va réduire ma prestation. » Typiquement, c'est ce qui s'applique pour le SRG, typiquement, la prestation va être réduite à un taux de 50% des autres revenus que je vais toucher. Et le projet pilote en Ontario, c'est la même chose. Donc, l'enjeu fondamental de ça, au-delà des coûts, puis au-delà, je dirais, des choix politiques qui sont sous-jacents à ça, c'est de dire, bien, il ne faudrait pas qu'on mette en place des régimes qui vont désinciter les gens à travailler. Ça va-tu pour ça? Y a-tu des questions? Oui?
Ça ressemble pas un peu à l'aide sociale, ça, bon. Le régime de revenus garantis?
Oui, garantie. C'est ça. Mais l'autre après, celui qu'on va voir après, là, c'est l'assistance sociale. Ça, c'est ce qu'on appelle au Québec le régime d'aide sociale. Ouais. Puis, en fait, la différence, c'est que dans les cas d'aide sociale, on va beaucoup plus loin. C'est plus complexe d'une certaine façon. C'est qu'on ne se limite pas au niveau de revenu de la personne pour établir son droit aux prestations.
Donc, c'est comme encore meilleur?
Bien, c'est plus ciblé, en ce cas. Ouais. OK. Donc, ici, dans le régime de revenu garanti, tout ce qui compte, c'est ton niveau de revenu. Ça va? Peu de revenus, on te paye. Pas de revenus, on te paye la totalité. Puis, si tu as des revenus le moindrement élevés, on ne paye rien. Dans le cas du régime d'assistance sociale, l'idée, puis en fait, on peut résumer l'idée d'un régime de revenu garanti en disant c'est de garantir un minimum de revenus à tout le monde. Dans le cas de l'aide sociale, c'est un peu plus sophistiqué, si on veut, là. L'idée, c'est qu'on veut te garantir un minimum de ressources. Donc, première des choses qu'il faut noter, c'est que ça peut être des revenus. Puis, ça peut être des biens et services. OK? Par exemple, biens et services en matière de santé. S'il y a certains biens ou certains services, je reviens à l'idée de la personne qui était handicapée, là, qui a eu un accident puis qui est devenue handicapée. Tout à l'heure, elle avait besoin d'adapter son véhicule, elle avait besoin... par exemple, d'un fauteuil roulant, besoin d'adapter la résidence. Mais dans un cadre de régime d'assistance sociale, on pourrait prévoir certaines prestations spéciales pour couvrir ces besoins-là. OK? Donc, peut inclure le paiement de certains frais. L'autre élément, c'est qu'on a vu tout à l'heure qu'avec les régimes de revenus garantis, on tenait compte seulement des revenus. Donc, dans le cas de l'aide sociale, on va tenir compte aussi des besoins puis des ressources. Puis, un élément, un exemple de ça, évidemment, quand on parle de besoins, par exemple, des biens et services liés à des problèmes de santé. Mais un autre élément qui est intéressant de voir, c'est que les régimes d'aide sociale vont faire une distinction entre les personnes qui sont aptes à l'emploi puis les personnes qui sont inaptes à l'emploi. Donc, tu te ramasses avec très peu de revenus, très peu de ressources. On dit, ouais, mais là, tu as évidemment certains besoins, mais les besoins, quand on prend ça au sens large, évidemment, ça tient compte de ta capacité de les combler, ces besoins-là. Donc, la prestation qu'on te payera va être différente, tout dépendant si tu es apte ou non à l'emploi. Puis, une personne qui est apte à l'emploi aura, dans cet univers-là, des prestations plus élevées. OK? Parce que, évidemment, les besoins qu'on veut satisfaire par le régime, c'est les besoins que toi, tu n'es pas à même de satisfaire. Puis évidemment, que si tu es apte à l'emploi, pour créer un incitatif, encore là, on va te dire, bien, trouve-toi un emploi. Ça va-tu pour ça? Donc, ça, c'est assimilable à ce qu'on a au Québec au niveau de l'aide sociale. Ça aussi, évidemment, dans les autres provinces canadiennes. Les avantages de ça, c'est qu'évidemment, c'est un moyen efficace pour combattre la pauvreté, parce qu'évidemment, on cible de façon particulière les gens qui sont dans une situation de précarité ou de pauvreté. Mais évidemment, il y a certains désavantages aussi qui sont associés à ça, qui sont mentionnés là. Détermination du droit au bénéfice pour une administration complexe. Donc, ce n'est pas juste de dire, tu as 10 000 $ de revenus, tu as droit à une prestation de Y, puis ça, si tu avais eu 5 000, tu aurais eu droit à une prestation de X. On tient compte de tes besoins, on tient compte de ta situation, on peut te couvrir certains frais, etc. Donc, c'est beaucoup plus complexe. Peut créer une désincitation à travailler, puis c'est ce qui a amené les différents gouvernements à renforcer la distinction au fil du temps entre les personnes aptes à l'emploi et les personnes inaptes à l'emploi. Il ne faut pas créer une dépendance face à l'aide sociale. Deux autres désavantages ou deux autres inconvénients ou problèmes associés à ça. Source de dévalorisation, humiliation pour le récipiendaire. C'est vraiment de l'aide de dernier recours. Donc, évidemment, ça peut être perçu négativement par l'individu ou par la société en général, là, d'où l'expression, entre autres, le BS. Puis, finalement, bien, pour différentes raisons, là, en termes de coûts, en termes d'incitatifs, le niveau des prestations demeure faible. Donc, c'est vraiment de l'aide de dernier recours. Ça va pour ça? Donc, ça, ce n'est pas des notions sur lesquelles on va revenir, parce qu'évidemment, on s'éloigne beaucoup à ce moment-là. C'est plus de l'assistance que de l'assurance. Puis nous, on va focusser plus sur des éléments qui ont trait à de l'assurance, là. Mais évidemment, sachez que ça existe. Dernier volet par rapport, si vous vous souvenez, la petite boîte que j'avais, là, qui avait quatre cadrans, là, quatre sous-compartiments. On disait, bien, il y a quatre moyens d'assurer la sécurité financière, la prévoyance, les universels, etc. Le dernier cadran, c'est les régimes fiscaux. Évidemment que la fiscalité, ça joue un rôle très important en matière de sécurité financière. Notamment parce que c'est une source de financement. Donc, quand on parle de régimes qui sont financés à travers les revenus généraux des gouvernements. Bien, on parle de taxes et impôts, donc on parle de fiscalité. OK, donc l'impôt en général, c'est prélevé sur le revenu. Alors que quand on parle de taxes, on peut parler, par exemple, de taxes de vente. Donc, toutes les fois qu'on consomme quelque chose, on est taxé par rapport à ça. Ça va? Autre élément où c'est important du point de vue de la sécurité financière, la fiscalité, c'est que c'est un instrument de redistribution de la richesse. Puis là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, les impôts ou l'impôt, c'est progressif. Donc, on paye plus d'impôts, puis pas juste plus d'impôts en dollars, mais plus d'impôts en pourcentage de ses revenus quand on a des revenus élevés. Donc, ce qui fait en sorte qu'une personne au Québec qui gagne moins, par exemple, que 10 ou 15 000 $ par année paye un taux d'impôt de zéro, alors que si vous au-delà, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres précis à l'esprit, au-delà de 100 000 $ bien, le taux marginal, le taux pour les gains que vous aurez au-delà de 100 000 $ ça va être de l'ordre provincial, fédéral combiné, là, de 50 % ou à peu près. OK? Donc, il y a des taux d'imposition qui sont croissants avec le revenu, puis ce qui fait en sorte que l'impôt est progressif. Puis donc, ça contribue à la sécurité financière parce que, évidemment, ça nous permet d'avoir certains services à titre de sécurité financière, mais qui sont payés par les gens qui en ont les moyens, non pas par tout le monde. Je vais présenter ça simplement. Autre élément où ça peut contribuer à la sécurité financière, c'est de couvrir des besoins particuliers de certains individus. Ce que je veux dire par là, à revenu égal, à revenu égal, moins d'impôts, si, par exemple, problème de santé, moins d'impôts si, par exemple, personne à charge, moins d'impôts si vous êtes une personne âgée. Donc, on s'est dit, jusqu'à maintenant, bien, on peut avoir des régimes d'assurance santé pour couvrir les frais encourus par les personnes qui ont des problèmes de santé. On s'est dit, bien, on peut prévoir des prestations familiales aux gens qui ont la responsabilité d'enfants. Et on s'est dit, on peut prévoir des revenus de retraite aux personnes qui sont âgées. Ça, ça peut se faire à travers des régimes dédiés qui couvrent spécifiquement ces risques-là, puis où on va payer soit un chèque à tous les mois, soit des services rendus, etc. Mais l'impôt peut aussi jouer un rôle là-dedans en disant, bien, à revenu égal, vous allez payer moins d'impôts si vous êtes dans cette situation-là. Donc, personne qui gagne 50 000 $ qui a un taux d'imposition de 30 %, ça équivaut à payer, supposons, 15 000 $ d'impôts par année. Bien, on dit, tu as des personnes à charge, on va retrancher du 15 000, un certain montant, 1 000, 2 000, 3 000. On va t'accorder un crédit d'impôt. Donc, tu payes moins d'impôts dans certaines situations. Ça va pour ça? À la limite, ça peut être une source de paiement de prestations. Puis là, je n'irai pas dans le détail de ça, là, mais il y a certaines situations où on peut prévoir des crédits d'impôt remboursables. Donc, non seulement tu payes moins d'impôts, mais on peut t'envoyer un chèque mensuel. Donc, c'est l'impôt qui fait le chèque plutôt que le contribuable, en disant, bien, c'est comme un crédit d'impôt, mais on te le donne en argent sonnant. L'autre élément qui est important, on peut t'allouer un crédit d'impôt, même si pas d'impôt payable. Donc, je vous disais tout à l'heure, les gens, par exemple, qui gagnent moins de 15 000 $ par année, payeront pas d'impôt. Bien, l'impôt pourrait, à la limite, dire, je vais prévoir des impôts négatifs, qui font en sorte que même si tu ne payes pas d'impôts, ben, tu auras droit à un chèque, une ristourne, un certain paiement pour assurer, dans certaines situations, une protection via la fiscalité. Donc, à la base, la fiscalité, c'est pour aller chercher des revenus, et aller chercher des revenus dans les poches de des gens qui ont plus de revenus, mais ça peut aussi être bâti pour couvrir certains besoins ou payer certains revenus à des gens dans certaines situations. Encore là, un peu comme je vous le disais tout à l'heure, pour l'assistance sociale, on n'ira pas dans le détail de ça, on ne fera pas un cours de fiscalité, mais quand même important, je dirais, d'entrée de jeu, en début de session comme actuellement, là, d'avoir une certaine notion par rapport à ça. Ça va? Donc là, on est rendu à l'étape suivante, qui est de parler de différence entre mécanisme individuel et mécanisme collectif. On va enchaîner avec ça, mais on va d'abord prendre une petite pause d'une dizaine de minutes.